sur les sentiers de l'orthodoxie. Une émission présentée par le père Pascal Scordino.
Alors nous recevons aujourd'hui le père Jean Breck, avec qui nous allons parler de l'anthropologie chrétienne. Père Jean Breck, actuellement en retraite, est professeur émérite de bioéthique, d'herméneutique patristique à l'Institut théologique orthodoxe de Saint-Serge, à Paris. Il a enseigné également à l'Institut théologique orthodoxe de Saint-Vladimir, à New York. Alors sur cette question, à savoir quelle anthropologie, quelle vision de l'homme, la tradition orthodoxe propose-t-elle, je vous propose comme point de départ, Père Jean, d'évoquer la figure emblématique de Saint Irénée de Lyon, qui nous rappelle que Dieu s'est fait homme, en Christ, pour que l'homme devienne Dieu. Ainsi comme l'expliqua Saint Séraphin de Sarov à son fils spirituel Motovilov, le but de l'homme chrétien est l'acquisition du Saint-Esprit. Son but est qu'il se fasse temple de l'Esprit-Saint, à l'instar de la Mère de Dieu. Selon vous, Père Jean, à partir de ces éléments, quelle figure, quelle vision de l'homme la tradition orthodoxe dessine-t-elle là déjà ?
Oui, pour répondre à la question, je crois qu'il faut remonter à Saint Irénée. Effectivement, il a fait cette affirmation dans le troisième volume de son œuvre contre les hérésies. Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Et toute la question est de savoir ce que cela signifie. Cette formule était reprise, bien sûr, par saint Athanase dans son œuvre d'Incarnazione, sur l'incarnation, et puis aussi d'une forme un peu plus approfondie par Grégoire Palamas au XIVe siècle. Mais encore une fois, qu'est-ce que cela signifie? Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Premièrement, il faut que l'on soit très clair là-dessus. Il ne s'agit pas du tout d'une participation de la part de l'homme à l'essence, à la nature divine. Il y a un abîme infini entre le créé et l'incréé. Et si on peut parler d'une véritable déification de l'homme, il faut que ce soit qualifié par des réflexions qui ont été développées au fur et à mesure par Grégoire de Nice jusqu'à Palamas, et qui arrive à situer la chose un peu de la façon suivante. L'essence de Dieu est absolument transcendante. L'homme est totalement incapable de connaître Dieu dans son essence, dans sa nature, et c'est la raison pour laquelle notre liturgie eucharistique, dans son anaphore, donc la prière qui commence la consécration, commence par ce que nous appelons une théologie apophatique, c'est-à-dire en disant ce que Dieu n'est pas avant d'affirmer ce qu'il est. Donc on utilise un vocabulaire comme Dieu est immortel, invisible, toutes ces négations afin de faire cette distinction, souligner cette distinction entre Dieu, le créateur de toutes choses, et l'homme qui est créé. Bien que l'homme soit créé à son image et à sa ressemblance, on ne peut jamais affirmer que l'homme puisse connaître Dieu par une participation à son essence. Néanmoins, la théologie orthodoxe a toujours, surtout depuis Palamas, mais il y a des racines de cette notion déjà dans le Nouveau Testament, on sait qu'une participation à la vie divine est possible. Et d'après Palamas et toute cette grande tradition, il s'agit d'une participation, une communion par la grâce donnée gratuitement par l'Esprit-Saint et une participation non pas à l'essence de Dieu, la nature de Dieu, mais à ce qu'on appelle ses énergies. Il s'agit là des attributs de Dieu, les attributs de justice, de bonté, de beauté et surtout d'amour. L'homme peut participer, avoir part à cet aspect de la vie divine parce que Dieu s'approche de nous et s'offre toujours à nous. Mais afin de parler dans un langage pareil, je crois qu'il faut faire une distinction très claire entre l'individu et la personne. Distinction qui a été assez gommée aujourd'hui. dans notre pensée, dans notre anthropologie, l'individu est défini par ses caractéristiques propres. Nous sommes des individus dans la mesure où nous mettons l'accent sur l'altérité, si vous voulez, les différences qui existent entre nous et d'autres personnes. J'ai un tel âge, j'ai des yeux d'une certaine couleur, vous d'une autre couleur. Donc le niveau de culture, d'intelligence entre les gens est toujours différent, etc. Et c'est ces différences qui déterminent notre individualité. Ça peut être quelque chose de très positif, mais aussi négatif, n'est-ce pas? Dans la mesure où l'individualité peut être poussée jusqu'au point où il n'y a plus de communion entre les gens, ce qui est arrivé à un point critique aujourd'hui.
Господи, сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи, сил с нами буди, и много бо разве Тебе, помощника в скорби к ним, а мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами буди, и много бо разве Тебе, помощников скорби к ним, а мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его во гласе трубне, хвалите Его во псалтире и гусле. Господи, сил с нами буди, и много бо разве Тебе, помощников скорби к ним, а мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Господи, сил с нами буди, и много бо разве Тебе, помощников скорби к ним, а мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его в кимбалях доброгласных, хвалите Его в кимбалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Господи, сил с нами буди, и много бо разве Тебе, помощников скорби к ним, а мы. Господи, сил помилуй.
Alors je rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'anthropologie chrétienne avec le Père Jean Breck, professeur émérite à l'Institut théologique orthodoxe de Saint-Serge. Alors Père Jean, avant l'intermède, nous évoquions la distinction entre l'individu, qui serait représentant d'une espèce, en quelque sorte, et la personne qui émergerait de cet état initial d'individu, par sa mise en relation avec le Père, avec le Créateur, avec la Trinité, c'est ça?
Je crois que chaque individu est appelé à devenir une personne. Qu'est-ce que ça signifie? Dans l'anthropologie, la théologie orthodoxe en général, aujourd'hui, on parle souvent de la personne comme être en communion, surtout Mgr Jean Zouzioulas. Mais c'est une notion générale. Être en communion signifie qu'il y a une relation d'amour essentielle entre l'individu, donc devenant personne, une relation d'amour d'abord avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Il y a donc une verticalité, si vous voulez, où le cœur de l'homme s'ouvre de plus en plus devant l'éternité. Mais cette ouverture doit embrasser aussi autrui. Petit à petit, on est accordé dans cette vie par la cèse et par la prière, si on suit le chemin de la philokalie, par exemple, le chemin de la spiritualité de l'Église dès ses débuts. Si on suit ce chemin, on arrive à une certaine connaissance de Dieu qui consiste en une certaine vision transfigurante de l'être humain. C'est dit dans la première épître de Saint Jean, comme dans les épîtres de Saint Paul, 2 Corinthiens 3, Philippiens 3, etc. C'est dit que lorsque le Christ viendra, nous deviendrons semblables à lui, donc c'est la parole de Saint Jean, et Saint Paul affirme aussi que petit à petit, nous participons de plus en plus de gloire en gloire à la vie de Jésus-Christ, et cela déjà dans ce siècle, déjà dans ce monde. C'est-à-dire la déification n'est pas quelque chose que nous attendons après notre mort, c'est quelque chose que l'on doit réaliser déjà ici-bas, parce que la vie éternelle commence déjà dans ce siècle. La parole du Christ en Jean 5, 24, par exemple, « Ceux qui obéissent à mes commandements, ceux qui écoutent ma parole, n'entrent pas en jugement, mais passent de la mort à la vie. » Et ça, déjà avant la mort physique, déjà dans ce monde. La déification, donc, c'est une chose, une réalité, une grâce, un don absolument inouï et qui est accessible à tous, déjà ici et maintenant, si on le cherche de tout son cœur, si on le cherche par amour, par le repentir et par la conviction aussi que Dieu nous aime et que Dieu nous appelle à une participation éternelle à sa vie.
Merci Père Jean Brecq.